VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, 13h à Bujumbura. Bonjour à tous. Les députés britanniques entament aujourd'hui 5 jours de débat sur les termes du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne avant un vote historique le 11 décembre qui va déterminer l'avenir de leur pays et celui de leur premier ministre. L'accord de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, fruit de 17 mois de difficiles négociations, est présenté par Theresa May comme le meilleur possible. En ouvrant les débats aujourd'hui, elle dit qu'il répond aux attentes du peuple britannique, selon des extraits de son discours transmis par ses services. En France, les blocages orchestrés par des gilets jaunes en colère contre la politique sociale et fiscale du gouvernement se sont poursuivis pour la 3e semaine consécutive, avec maintenant une fronde dans les lycées et la colère des ambulanciers. Abdourahmane Dia.
Les blocages de plusieurs dépôts pétroliers ont entraîné hier les premières pénuries d'essence. Certains blocages ont été levés après intervention des forces de l'ordre. En Bretagne, dans l'ouest du pays, de nombreuses stations-service sont en rupture de carburant, poussant les autorités locales à prendre des mesures de rationnement. Le trafic a été perturbé sur plusieurs axes routiers où les manifestants ont mis en place des barrages, entraînant parfois des bouchons sur plusieurs kilomètres. Les entreprises de transport routier ont estimé hier à 400 millions d'euros les pertes subies depuis le début des manifestations le 17 novembre. Par ailleurs, plus d'une centaine de lycées ont été paralysés par un mouvement de protestation contre les réformes dans l'éducation. Au moins une centaine d'ambulanciers ont bloqué hier l'accès de la place de la Concorde. Ils réclament la suspension d'une réforme du financement des transports sanitaires. Le Premier ministre Édouard Philippe a reçu hier les leaders de partis politiques et doit rencontrer aujourd'hui des représentants des Gilets jaunes. Le président Emmanuel Macron n'a pas pris la parole publiquement depuis son retour d'Argentine.
Le processus en vue d'un règlement politique au Yémen semble s'accélérer après l'évacuation de rebelles blessés et un soutien aujourd'hui marqué du gouvernement émirati, l'un des principaux acteurs de la guerre, à la tenue de pourparlers de paix inter-yéménite en Suède. Le médiateur de l'ONU, le Britannique Martin Griffiths, se trouve lui-même dans la capitale yéménite, Sanaa, contrôlée par les rebelles houthis. Lundi soir, le Koweït, qui avait accueilli les derniers pourparlers en 2016, a déclaré que la délégation rebelle quitterait le Yémen aujourd'hui pour la Suède où de nouvelles négociations pourraient s'ouvrir dès cette semaine. L'armée israélienne a annoncé avoir détecté des tunnels souterrains du Hezbollah libanais en territoire israélien et avoir lancé mardi une opération pour les détruire à la frontière. L'opération Bouclier du Nord est le dernier épisode en date de la confrontation entre Israël et la formation pro-iranienne, l'un des grands ennemis de l'État hébreu de part et d'autre de la ligne bleue fixant la frontière libano-israélienne. Cette confrontation s'était au cours des dernières années largement déroulée sur le sol de la Syrie voisine, mais le discours israélien a évolué récemment pour dénoncer davantage les activités du Hezbollah et de l'Iran au Liban. 260 personnes sont mortes de la fièvre hémorragique Ebola en 4 mois dans l'est de la République démocratique du Congo, a rapporté aujourd'hui le ministère congolais de la Santé. Le ministère note par ailleurs que 72 cas suspects sont en cours d'investigation. La RDC est touchée par une épidémie d'Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, région orientale du pays en proie à l'insécurité en raison de la présence de plusieurs groupes armés nationaux et étrangers. 11 soldats sud-africains ont été reconnus coupables d'avoir agressé un mineur lorsqu'il participait à la mission de maintien de la paix de l'ONU en RDC, a annoncé leur état-major. La justice doit prononcer ultérieurement une peine contre ces soldats. Les faits s'étaient déroulés en janvier dernier. Les soldats sud-africains stationnés dans la province du Kasaï, dans le sud de la RDC, s'étaient livrés à des violences contre la victime âgée de 17 ans qu'ils soupçonnaient de leur avoir volé des sceaux. Les militaires avaient été initialement inculpés pour actes de torture, mais ces charges ont été abandonnées et ils n'ont été reconnus coupables que d'agression.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Retour maintenant sur le mandat d'arrêt international lancé par le procureur général de la République du Burundi contre Pierre Buyoya et 16 autres personnalités militaires aux proches de l'ancien président burundais. L'opposition, tout comme M. Buyoya, parle de manipulation politicienne. Reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
La nouvelle largement commentée à Bujumbura concerne ces mandats d'arrêt lancés contre les dignitaires des anciens régimes burundais avant l'éclosion de la démocratie en 1993. Pierre Buyoya, l'ancien président aujourd'hui envoyé spécial de l'Union africaine au Mali, est en tête de liste des personnes recherchées. Si le pouvoir affirme vouloir mettre fin à l'impunité au Burundi, l'opposition parle, elle, de chasse à l'homme basée sur l'ethnie. Liberate Nzofava Rouché, 45 ans, est Tutsi. On a tué certains membres de sa famille juste après la mort de Ndadaye.
C'est bien que la justice travaille, mais après la mort du président Ndadaye, il y a des innocents qui ont été tués dans les collines, par la milice. Gédébou, c'était des jeunes démocratiques, Ufrodébou. Si la justice devait se faire, il faut qu'elle se fasse pour tout le monde, pour tous les Burundais. Sinon, c'est la justice des puissants qui ne ramène pas la paix pour tous les Burundais.
Cyriaque Nirinzomvamunda, juriste, insiste lui aussi pour une justice pour tous, comme le réclame le clergé burundais.
Pour moi, ceux qui ont assassiné Ndadaye, il faut quand même qu'ils soient punis. Si on punit ceux qui ont assassiné Ndadaye, ce n'est pas seulement ceux qui ont commis les crimes. Il faut aussi que tous les côtés donc soient jugés. Si on juge ceux qui ont assassiné Ndadaye, ce ne serait pas une justice équitable. Il y a vraiment ceux qui ont commis les massacres, notamment à Bugendana. Je crois quand même que tous ceux qui ont tué, ils ont commis des crimes. Il faut quand même qu'ils soient jugés.
L'ancien journaliste Jean de Dieu Saint-Guillaume va aujourd'hui analyse de la politique burundaise, ne comprend toujours pas le pourquoi de cette mesure.
Comme beaucoup d'autres Burundais, je ne comprends pas tout de suite ce que visent ces mandats d'arrêt. Et ceux qui reviennent, c'est-à-dire que finalement, il y a une main d'un politique. On veut nous faire oublier, comme si cela était possible, nous faire oublier des dossiers qui sont d'actualité, des dossiers qui devraient être mis en avant, que ce soit à Arusha ou ailleurs, sur la table des négociations pour être débattus, mais que la justice le fasse en toute indépendance. Est-ce qu'elle est indépendante? Est-ce que c'est la décision qui a été prise par la justice burundaise que nous connaissons? Non. Et ça peut être dangereux. L'accord d'Arusha avait octroyé une amnistie provisoire pour tous ceux qui sont impliqués dans des situations qui attendaient le pays. Alors maintenant qu'on a enterré l'accord d'Arusha, on vient de trouver l'occasion pour arrêter, pour punir, pour se venger.
Pour l'ancien président Pierre Buyoya, la justice risque une fois de plus d'être instrumentalisée au risque de ramener le pays dans des haines ethniques. L'Union africaine a appelé le gouvernement burundais à arrêter toute mesure qui vise à nuire à la recherche d'un consensus sur la crise actuelle. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Plus d'un an après son arrestation à Paris, François Compaoré sera demain mercredi, si la justice française accepte de l'extrader vers le Burkina Faso. Ce frère du président déchu, Blaise Compaoré, est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo le 13 décembre 1998. Bagasikura.
Le parquet général à Paris s'est dit favorable à l'extradition. Les avocats de Compaoré, Maître Pierre-Olivier Sûr et Mathias Chisportich, dénoncent le caractère irrégulier et exclusivement politique de la procédure. Initialement prévue en juin, la décision a dû être reportée parce que la Cour réclamait au Burkina Faso des éléments matériels précis. Classé en 2003 après un non-lieu, le dossier Norbert Zongo a été rouvert après la chute de Blaise Compaoré fin octobre 2014. Depuis, les deux frères se sont exilés en Côte d'Ivoire où ils ont obtenu la nationalité ivoirienne. François Compaoré, 64 ans, a été arrêté à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle de Paris en octobre 2017 après un mandat d'arrêt émis quelques mois plus tôt par Ouagadougou. Il est placé sous contrôle judiciaire en France. Le 13 décembre 1998, notre confrère Norbert Zongo et trois autres personnes ont été retrouvés morts calcinés dans leur véhicule à Sapui, dans le sud du Burkina Faso. À l'époque, il enquêtait sur le cas de David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré, torturé à mort.
La santé du président gabonais Omar Bongo Ondimba, tous les plus hauts responsables du Gabon, dont le premier ministre et le vice-président, se trouvent aujourd'hui à Rabat où le président Ali Bongo est hospitalisé. Emmanuel Issoussé Ngondé, premier ministre, Pierre Claver Maganga Moussavou, vice-président, Marie-Madeleine Mburantso, président de la Cour constitutionnelle, ainsi que Brice Lacruche Alianga, directeur de cabinet du président Bongo, sont arrivés hier soir au Maroc. Ali Bongo Ondimba, âgé de 59 ans, est lui arrivé jeudi dans un hôpital militaire de la capitale marocaine pour y poursuivre sa convalescence après plus d'un mois passé dans un hôpital de Riyad pour une maladie qui reste officiellement inconnue. Lundi, le roi du Maroc, Mohamed VI, ami de longue date du président gabonais, lui a rendu visite à l'hôpital. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.